journal, Mireille Boukata.
La gestion de la SNCC et de l'ONATRA sera désormais partagée entre l'État congolais et des partenaires étrangers. Le gouvernement l'a annoncé vendredi dernier. Dans ce journal, vous aurez la réaction des délégations syndicales de ces entreprises, celle du Sénat, mais aussi des explications de la ministre du portefeuille. Le report de la tenue de la conférence sur la paix dans les Kivu réjouit la société civile du Nord Kivu, mais cette institution pose des conditions pour participer à ce forum, notamment augmenter leur représentation à cette rencontre, éclaircir le statut des groupes armés invités. Et puis ces échauffourées, c'est avant midi dans la cité de Haru Centre en Ituri. Les FRDC ont voulu disperser des taximens qui protestaient contre l'assassinat d'un des leurs dans la nuit de ce mercredi. Une bagarre d'environ 6 heures s'en est suivie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le compte-rendu de sa réunion de vendredi dernier, le gouvernement a annoncé que les entreprises publiques ONATRA et SNCC seront placées sous la gestion mixte, à savoir de l'État congolais et des partenaires étrangers. Pour l'ONATRA, c'est la compagnie espagnole Progosa et pour la SNCC, c'est l'opérateur ferroviaire belge Vecturis. Au siège de ces deux entreprises congolaises du secteur des transports, pas de réaction des dirigeants pour le moment. Tout le monde prend le temps de comprendre de quoi il est question avant de réagir, mais ce n'est pas le cas du côté des travailleurs. Le président de la délégation syndicale de l'ONATRA, M. Tadila, se dit indigné du fait que les travailleurs, premiers concernés par cette réforme, n'ont pas été consultés. M. Tadila, au téléphone de Olga Ndombassi.
La nouvelle à propos de la mise sous contrat de gestion de l'ONATRA, on l'avons accueillie avec beaucoup de réserves et de pessimisme. Parce que, à notre connaissance, les travaux initiés par les copyrights qui devaient justement déboucher sur ce genre de mode de gestion, ces travaux n'ont pas encore fini. Ça, c'est la première inquiétude. Et la deuxième, c'est que nous sommes dans une phase de réforme des différents cadres juridiques régissant les entreprises publiques. Alors, nous ne pouvons pas comprendre, pour ces deux raisons, l'empressement du gouvernement à vouloir mettre l'ONATRA sous contrat de gestion au moment où le cadre juridique dans lequel devra évoluer ce contrat de gestion n'est pas encore clairement défini. Donc, ça nous pousse vraiment à la réserve et je dirais même au pessimisme.
Côté Parlement, le rapporteur du Sénat renvoie la balle au ministre de tutelle. Pour Modeste Moutinga, il serait précoce de juger la décision du gouvernement avant la promulgation de la loi sur la réforme des entreprises publiques qui est encore sous examen au Sénat. Modeste Moutinga est au téléphone de Willy Akonda.
Je pense que si le gouvernement agit à ce stade, il agit dans le cadre de la loi de l'année 1978 qui porte la gestion du portefeuille. Il y a quatre lois qui ont été déjà discutées en plénière et qui sont au niveau d'examen dans les commissions spécialisées du Sénat. Je ne veux pas interpréter les décisions du gouvernement telles Madame la ministre au portefeuille qui a la tutelle administrative financière des entreprises publiques et les entreprises technique, donc le ministère des Transports et des Voies de Communication peuvent répondre à cette question.
Mais le rôle du Parlement, c'est de contrôler l'action du gouvernement.
Le contrôle parlementaire porte sur les lois et les règlements déjà adoptés et publiés par le président de la République ou le Premier ministre. Nous ne pouvons pas contrôler en amont pour interpréter une loi qui n'est pas encore promulguée par le chef de l'État.
Rapporteur du Sénat, Modeste Moutinga, était avec Willy Akonda. Davantage d'explications sur ce dossier viennent par contre du ministère du portefeuille. Selon la ministre Jeannine Mabunda Iyoko, ni l'ONATRA ni la SNCC n'ont été vendues. Ces entreprises restent congolaises. Il s'agit tout simplement d'un contrat d'assistance technique pour une gestion moderne, affirme-t-elle. Jeannine Mabunda Iyoko au téléphone d'Agathe Pona.
Ce n'est pas une privatisation. Nous n'avons pas vendu l'ONATRA ou la SNCC. Le capital appartient toujours à l'État congolais, mais nous faisons venir avec nous, nous faisons travailler avec nous des partenaires dans le cadre d'un contrat d'assistance technique, de manière à ce qu'ils puissent, avec des directeurs financiers et des directeurs généraux adjoints congolais choisis sur concours, ils puissent prendre des mesures de gestion modernes. Nous avons un directeur général et un directeur financier qui sont expatriés, choisis sur concours. Au mois de juin, le Copyright a lancé un appel d'offres pour chercher des partenaires spécialisés dans le secteur du transport ferroviaire pour la SNCC et portuaire pour l'ONATRA. Et deux prestataires de services ont été identifiés. Progrosa pour l'ONATRA et Vecturis pour la SNCC. Un contrat de gestion, ce ne sont pas des licenciements massifs. Il y a moyen de rendre une entreprise publique performante sans nécessairement passer par des licenciements massifs. Et à ce moment, l'État est toujours propriétaire et c'est lui qui décide de la politique sociale. Je crois qu'il n'y a pas de crainte à avoir de ce point de vue.
Concernant le cadre légal dans lequel s'inscrit cette réforme, la ministre du Portefeuille évoque la loi de 1978 qui régit les entreprises publiques. Selon elle, cette loi reste valable en matière des contrats de partenariat public-privé. Janine Mabunda espère que quand ces nouveaux contrats sur l'ONATRA et la SNCC seront finalisés vers fin janvier 2008, les nouvelles lois sous examen actuellement au Parlement seront déjà promulguées. Nous l'avions dit dans le sommaire, la société civile du Nord Kivu se dit satisfaite du report de la conférence sur la paix dans les Kivu. Quant à sa participation à ce forum, elle demeure encore hésitante. La société civile du Nord Kivu dit attendre que ces conditions soient examinées par les organisateurs. Elle souhaite, entre autres, que soit éclairci le statut des groupes armés invités. Autre exigence qu'elle pose, augmenter leur représentation à cette rencontre. Écoutez Jason Luneno, président de la société civile. Le Nord Kivu, il est au téléphone de Georges Kamudjova.
Nous estimons que la participation de la société civile devait être importante. 150 délégués par province, le Nord et le Sud du Kivu, sur les 600 participants, ça pourrait être une très bonne chose pour nous. Donc nous voulons 150 dans lesquels on va avoir les coordonnateurs provinciaux de la société civile, tous les 11 coordonnateurs provinciaux. Nous voulons avoir aussi les bureaux du secrétariat exécutif national de la société civile, mais aussi nous voulons que l'opposition politique puisse participer en nombre significatif dans cette rencontre, parce que la question qui va être traitée dans cette conférence ne concerne pas seulement les Nord et le Sud du Kivu, la question est nationale.
C'était Jason Luneno, président de la société civile du Nord Kivu, qui était au téléphone de Georges Kamudjova. Pour permettre la tenue de la conférence sur la paix, la sécurité et le développement au Kivu, le CNDP appelle à un cessez-le-feu. Dans un communiqué cité par l'agence France-Presse, le mouvement de Laurent Kunda soutient l'exigence exprimée par le département d'État américain, au terme de laquelle les parties en conflit doivent observer un cessez-le-feu. Ceci afin de permettre le déroulement des travaux dans un environnement sécurisé. Le CNDP dit soutenir la tenue de cette conférence et promet sa participation s'il y est invité. La conférence projetée par le gouvernement sur la paix dans les deux Kivu est sans objet. C'est Arthur Zaidingoma qui le dit. Au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi à Kinshasa, l'ancien vice-président de la République précise que la conférence des Kivu ne peut produire les effets escomptés par le peuple congolais. Tant que Laurent Kunda demeurera le maître des lieux, dit-il, cette conférence est convoquée dans des conditions de capitulation. Selon Zaidingoma, la paix et la sécurité dans ces deux provinces étant un impératif catégorique, le gouvernement congolais doit démissionner. En Ituri, le calme est revenu ce mercredi soir à Arou Centre après une vive tension qui a opposé les taximens moto appuyés par d'autres civils aux éléments FRDC de la première brigade intégrée. Selon les autorités locales de cette cité située à 260 km au nord de Bounia, des militaires FRDC ont dispersé une manifestation des taximens moto en tirant plusieurs coups de balle en l'air. Les manifestants protestaient contre l'assassinat d'un de leurs dans la nuit de ce mercredi par des hommes armés en uniforme. Le récit des événements avec Isaac Remoyope.
Le taximen a été assassiné la nuit de ce mercredi aux environs de 2h du matin à côté du marché central d'Arou Centre. Toute la matinée de ce mercredi, ses collègues en colère ont manifesté apprenant son corps pour aller le déposer au camp des FARDC. Ils attribuent ce cas de meurtre à des éléments FARDC de la première brigade intégrée. Selon l'entité du territoire d'Arou, les manifestants scandaient des slogans pour demander le départ de cette brigade FARDC du territoire d'Arou. Monsieur Mawa Enzoroni ajoute que cette manifestation a été dispersée de 10h à 14h par des soldats qui tiraient plusieurs coups de balles en l'air. Selon la société civile locale, cette situation a provoqué la fermeture du marché, des boutiques et des bureaux de l'État. Plusieurs sources confirment que le calme est revenu depuis 15h. Trois civils accusés d'être instigateurs de cette manifestation sont arrêtés au cachot du commissariat local de la police nationale congolaise. Jusque-là, le commandant de la première brigade intégrée des FARDC n'a pas encore donné sa version des faits. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Capi.
Restons en Ituri, parlons des conséquences de la fermeture de la grande mine d'or d'Adidi à l'exploitation artisanale. Cette décision du gouverneur de la province orientale paralyse les activités socio-économiques de Mongualou, cité située à plus de 80 km au nord de Bounia. Plus de 50 000 habitants de cette cité minière sont affectés par cette situation. Le chef de cette entité administrative déplore en même temps la recrudescence des cas de vol à main armée depuis la fermeture de cette mine souterraine. Sadala Chabani s'y est rendu.
Ces gouttes d'eau qui tombent du rocher mouillent au passage des crésaires qui entrent dans la mine de Makala, une ancienne mine abandonnée qui ne produit plus grand-chose. Féline Droza, un créseur que nous avons trouvé à l'entrée de cette mine, précise qu'il est là parce que la mine d'Adili vient d'être fermée.
Je fais du travail d'or. J'entre dans ce trou d'une ancienne mine. Je n'ai pas de place pour travailler ou trouver facilement de l'or. C'est pourquoi nous entrons dans cette ancienne mine de Makala. Moi, je ne suis pas un homme qui peut aller voler ou commettre des violences.
Les opérateurs miniers et acheteurs indépendants d'or qui résident à Mongualou se préoccupent beaucoup de cette baisse de production provoquée par la fermeture des mines d'or d'Adidi. Ils ne sont pas les seuls à se plaindre. Selon M. Jean-Pierre Bikilisende, chef de cité de Mongualou, le pouvoir d'achat de sa population est vraiment affecté.
Normalement, nous avons remarqué qu'il y a une certaine crise financière dans la cité puisque les commerçants se plaignent qu'ils ne vendent plus comme avant et même les pauvres mamans au marché aussi se plaignent qu'ils ne font plus de recettes comme avant.
Monsieur Jean-Pierre Bikilisende ajoute que depuis la fermeture de cette mine, sa cité enregistre beaucoup de cas de vol à main armée. Debounia, Sadala Chabani, Radio Okapi.
Dans le Bandundu, les enfants de Ombali auront désormais leur propre école. C'est un don du gouvernement provincial aux enfants de cette localité située à 3 km de Bandunduville, à la rive gauche de la rivière Kouilou. Ce cadeau pour la fête de Noël fait suite aux difficultés qu'éprouvaient les petits-enfants débutants qui ne savaient ni braver la rivière Kouilou par pirogue, ni faire 25 km à pied pour atteindre l'école à Kabankou. C'est ce que nous dit Baziba Koumbani dans ce reportage.
8 500 000 francs congolais et 150 tôles sont là le premier moyen mis à la disposition du comité local de développement pour doter le village Ombali d'une école. Cette action du gouvernement provincial vient répondre aux doléances des parents de ces villages qui avaient du mal à faire étudier leurs enfants. Ces grands villages de plus de 5 000 habitants ne disposant d'aucune école. Seuls les courageux laissaient encore leurs enfants s'aventurer chaque matin sur la rivière en pirogue pour atteindre l'école à Bandunduville. Et cela sans compter les noyades et bien d'autres risques. Au vu de tout ceci, rare était le tout petit qui commençait l'école à l'âge voulu. Et cette situation perdure depuis l'époque coloniale. Voilà pourquoi, soucié d'encourager la scolarité des enfants, le gouvernement provincial de Bandundu vient de mettre ces cas en priorité. De commun accord, le comité local de développement que dirige la Béonésie Mouyembe et le gouvernement provincial se sont engagés pour terminer le travaux dans 3 mois. Ils ont demandé aux bénéficiaires de s'engager aussi dans la construction d'un petit bureau pour les directeurs. Cela en vue de donner la chance à des centaines d'enfants qui chôment par manque d'école de commencer les études de l'année scolaire prochaine. De Bandunduville, Basile Bakumbane, Radio Okapi.
Et au Katanga, pour finir, près de 70 agents de la police judiciaire de Kamina sont démis de leurs fonctions depuis hier mardi. Ces agents sont accusés de tracasserie de la population. Le procureur près le tribunal de grande instance de Kamina affirme que cette mesure avait été prise par le procureur général de la République près la Cour suprême de justice le 24 décembre 2006. Mais sa mise en application était retardée par manque de personnel pour leur remplacement. Nelly Kabena nous explique.
Toute la ville de Kamina parle du licenciement massif des agents de la police judiciaire. Certains d'entre eux, contactés, parlent d'un problème politique et veulent recouvrer leurs droits. Ces agents avaient pour rôle de récolter des renseignements sur des dossiers en instruction au parquet et en exécuter certaines décisions. Dans sa lettre du 24 décembre 2006, le procureur général de la République, près la Cour suprême de justice, a instruit au procureur de parquet de grande instance de révoquer ce personnel. Ces agents se sont rendus coupables de plusieurs abus tels que l'extorsion, l'escroquerie et fracasserie. Le procureur près le tribunal de grande instance de Kamina indique que ces agents avaient été recrutés comme bénévoles par un inspecteur judiciaire de Kamina. Leur évocation était retardée par le manque du personnel pour leur remplacement. Aujourd'hui, le parquet travaille avec la police nationale congolaise. Gaspard Katenk appelle ses anciens agents à remettre les cartes de service. Sinon, ils seront poursuivis pour usurpation des fonctions. Lubumbashi, Nelly Kabena, Radio Okapi.
Et c'est par ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Radio Okapi.